Antoine, on a connu un Chris qui est disparu dans un couloir, je ne sais pas. Du coup, elle s'est tombée dans un trou ou alors qu'elle a été appelée par une vidéo. Je ne sais pas. Alors, on n'osait pas commencer sans le dire à Chris, mais on va peut-être commencer. Comme j'ai dit à Pierre Cornette de Saint-Cyr, nous sommes. Aujourd'hui, on va étudier les plâtres. Hein, puisque, enfin, bon, on a l'habitude d'étudier les plâtres parce qu'il y a beaucoup de plâtres en dessous du palais de Tokyo, là, parce que j'ai compris. Donc, il a son chiffon, il a tout ce qu'il faut pour nettoyer en dessous. Et on est très heureux. Alors, Pierre, on va inaugurer un site que nous avons souhaité au niveau de l'Association des Amis de l'Institut d'Art Contemporain, qui est un site sur les acteurs de l'art contemporain, et notamment les acteurs qui rentrent dans le site de la collection, que ce soit des collectionneurs comme certaines œuvres. Alors, Pierre Cornette de Saint-Cyr, lui, a toutes les cartes dans sa main, parce que il est président des Amis de Tokyo, c'est un commissaire-priseur extrêmement connu et sympathique, et en plus, c'est un collectionneur aussi. Donc, je ne sais pas s'il a toutes les qualités ou tous les défauts, et je pense qu'il va nous le dire.
Ma passion au métier parce que j'ai commencé, je suis au Maroc, j'étais un grand représentant, alors j'étais champion du Maroc de studentique, champion de l'armée, alors les études, c'est ça. Il a fallu décider, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Alors que mon grand-père avait une propriété au Maroc, j'étais tout le temps à cheval, mais tu travaillais avec ton oncle. Donc je suis allé faire les études. L'agriculture, je me suis emmerdé, mais ça a été épouvantable. Moi, j'étais ingénieur agricole, et à la fin des études, on devait faire un exposé. J'ai fait un exposé sur Nietzsche, et j'ai eu la meilleure note de l'histoire de l'école. Et le directeur m'a dit, vous n'êtes pas fait pour l'agriculture. Après, bon, je me suis dit, bon, je vais être avocat. Donc, je fais droit à Sciences Po. Mais entre-temps, heureusement, un jour, un de mes copains se marie, et je me suis dit, je vais lui faire quelque chose. J'ai toujours adoré le dessin, je suis incapable de dessiner, mais le dessin c'est un langage pour moi. Et à l'époque, les dessins anciens devaient les rire. Donc chez les antiquaires, c'est comme ça n'intéressait personne. Donc je fais un tour dans le cœur et j'achète une sangline qui s'est révélée être une sangline de Berdier, un des collaborateurs de Lebrun à Versailles. Et quand je suis rentré chez moi, ça a été Saint-Paul sur le chemin de Damas. Je me suis dit, j'ai une vraie œuvre. Parce qu'évidemment, moi, j'ai un étudiant, j'ai une reproduction sur les mots. Et là, je dois vous avouer que le faux cul, j'ai gardé le dessin, j'ai offert une belle tarte à mon copain, j'ai gardé le dessin, et là a commencé une sorte de lampe névrose. Donc j'ai fait droit sur Pau, mais quand c'était à Toulouse, je suis venu à Paris pour. Et donc je passais ma vie au cabinet des dessins, parce qu'à l'époque, on allait, je disais, Michel-Ange. J'étais super copain avec tous les. Et puis je me suis dit aussi, ça c'est vraiment pas ma vie. Quoi. J'arrive pas à l'éteindre. Tu sais l'éteindre. Et puis donc un jour, mes copains me disent ben, je connais le secrétaire de la commission à 10h, je ne sais pas combien ça marchait. Je vais voir, je me dis ben, je viens vous prendre un stage si vous voulez. Alors j'étais sur le point de rencontrer, donc moi je vais terminer. Et là, j'ai appelé mon père pour l'idée de changer de direction une troisième fois. Il a dit, ah, maintenant ça suffit. Hein. Mais comme il était intelligent, donc j'ai plongé, je suis parti. Donc c'est vraiment à partir de cette collectionneur que j'ai dit, commencez mon art. Donc je suis vraiment un collectionneur.
Ça a influencé influencé ton choix professionnel à ce moment-là? Comment ça s'est passé?
Ah ben, totalement, j'ai décidé, j'ai quitté du jour au lendemain, j'ai abandonné, je devais être avocat, j'avais fait un an de procédure, c'est quoi. Tout n'a pas revenu et je suis entré en stage chez Morel et c'est reparti. Et donc c'est à partir de là que je...
C'est vrai que c'est difficile de ne pas être collectionneur quand on voit toutes ces œuvres passer toute la journée dans les études.
Non, mais je ne comprends pas qu'on soit dans l'art et qu'on n'ait pas envie de posséder des œuvres. C'est comme si on passait sa vie à voir des femmes de rêve passer devant vous sans jamais pouvoir s'en approcher. C'est pas bon ça. Ah ben bien sûr, mais les œuvres d'art non plus. Hein. Ce sont des histoires d'amour, des choix, on se coopte. Et puis il faut apprendre. Il faut apprendre les. Vous savez, l'amour de l'art, c'est comme l'amour de l'amour. Ça s'apprend. Ça, Picasso disait, l'art, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Donc c'est un langage. Quoi. Et c'est pour ça que c'est tellement insupportable d'entendre tout ça. Le nombre de gens qui disent je n'aime pas ça, donc c'est nul, c'est insupportable. C'est encore cette merveilleuse réponse de Picasso, il sort d'un concert et puis une dame à côté de lui il dit « Ah, je déteste Schubert !» Vous imaginez le noir de Picasso, il se retourne vers elle et il dit « Ça n'a pas d'importance, madame. » C'est comme si je vous disais « Je n'aime pas le nain rouge. » Un, vous vous en foutez, et deux, qu'est-ce que ça change au nain rouge? C'est idiot. Quand on compare le Bordeaux et le Bourgogne, on peut commencer à parler, le vin rouge et le vin blanc. Mais il n'aime pas le nain rouge. J'aime pas Schubert. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Donc on n'entre pas dans l'art. Donc c'est vrai qu'il faut. On a tout un travail d'éducation. Parce qu'au fond, il est clair, c'est vrai que tout collectionneur, j'aurais voulu être un artiste. Mais je me suis dit, au fond, on a une position formidable. Parce que les artistes sont des émetteurs. Donc ils émettent une pensée codifiée, sous forme de peinture, de musique, de poésie, de littérature. Mais en face, il faut bien des récepteurs, des codeurs. Puis quand on en fait le métier, nous sommes des récepteurs, des codeurs, des transmetteurs. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est une chance inouïe d'être face à l'histoire de l'art, d'apprendre à décoder, d'abord on s'en nourrit, et puis pour transmettre, il faut formuler, donc il faut comprendre soi-même. Donc c'est vraiment une vie passionnante. Quoi. Je dis que quand on entre dans l'art, tous ceux qui viennent me voir en disant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais écoutez, si vous entrez dans l'art, vous allez avoir une vie extraordinaire, vous n'allez pas pouvoir vous ennuyer une demi-seconde. Quoi. C'est une sorte de passion permanente. Et puis en plus, il faut comprendre aussi, vous savez, c'est la théorie de Malraux, qui était tout à fait passionnant, la théorie des englobants. Malraux disait chaque période de civilisation a sa vision du monde, avec tous les grands courants philosophiques, sociologiques, scientifiques, et les artistes mettent en forme. Donc avant, pour décoder les artistes, il faut d'abord savoir comprendre. Et il disait par exemple, pour prendre les trois dernières périodes, au Moyen-Âge, tout venait d'en haut. Bon, Dieu dirigeait tout. La vie politique, la vie sociale, la vie sexuelle, tout. Donc tout l'art du Moyen-Âge, c'est pour la plus grande gloire de la loi qui venait d'en haut. Et puis les Renaissances disent, ok, Dieu d'accord, ok, on n'est pas en cause surtout. Ben, si on faisait conscience à notre intelligence pour comprendre le monde. Pour comprendre, il faut le modéliser. Alors, ils se sont dit, le monde est une horloge. C'est Dieu qui l'a faite, évidemment, harmonieux. Donc nous allons analyser et décrire les rouages de cette horloge pour comprendre le monde. Et là où le langage artistique est extraordinairement efficace, immédiatement on crée un langage descriptif. Piero della Francesca, Raphaël ont créé la perspective, on bosse. Et donc, l'englobant du Moyen-Âge, c'est Dieu. L'englobant de la Renaissance, c'est Dieu plus l'intelligence. Et puis, comme on modélise un univers fait par Dieu et parfaitement harmonieux, donc c'est l'harmonie, donc la beauté, l'englobant. Et cette vision dure jusqu'à la fin du 19e. Et puis en 1870, Rimbaud, qui est plus qu'un poète, qui est un visionnaire, un voyant, écrit dans une deuxième phrase, Une saison en enfer. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Ça veut dire que cette vision du monde est déterminée. Et la même année, Nietzsche dit Dieu est mort. Bon, 20e siècle, c'est l'intelligence sans Dieu. maintenant dans ce nouveau monde. Mais comme on a besoin de sacré, et c'est là où le rôle des artistes est bien prépondérant, c'est un très joli livre de Jean Paulhan, en 1950, qui s'appelle La peinture sacrée, où il dit jusqu'au XXe siècle, l'art a représenté le sacré. À partir du XXe siècle, il est devenu sacré. Donc le geste inaugural du XXe siècle, c'est Marcel Duchamp qui dit maintenant c'est moi qui suis en charge du sacré. Parce que c'est l'art qui est sacré. Et je vous dis que cet objet est une œuvre d'art. Donc il a investi, c'est lui qui sacre. Et donc tout le XXe siècle est fondé sur ce. Et puis là, il y a une accélération absolument phénoménale, l'intelligence. Et là, au Palais de Tokyo, je fais beaucoup travailler les scientifiques et les artistes en même temps pour réfléchir. Parce que c'est exactement pareil maintenant. Les grands savants me disent, mais est-ce que tu as conscience du fait qu'on a changé de civilisation en deux générations? 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. Ça veut dire que la seule matière première de cette nouvelle civilisation, c'est le neurone. Pétrole, le charbon, ça se termine en 25 ans. C'est la seule matière première. On dit qu'actuellement, l'ensemble des connaissances humaines double tous les 7 ans et doublera tous les 70 jours en 2030. Donc, c'est-à-dire qu'on vit en 1450. Donc, la crise actuelle, c'est une crise de l'inadaptation de la société politique, économique, et surtout médiatique, parce que les journalistes ont cassé le foncier. C'est le fait libéral, il faut le voir, il n'y a plus rien. De l'inadaptation de cette société et de ce monde prodigieux, extraordinaire. Moi, on avait au Grand Rex la semaine dernière, ils ont fait une grande soirée pour le QGVR, pour les 40 ans, donc, il y avait Buzz Aldrin qui était là. Je dis Buzz, mais c'était un des grands héros de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, vous vous rendez compte dans quelle civilisation est-ce qu'on a fait ?
Tu peux encore le toucher ?
Et oui, j'ai dit Buzz, c'est-à-dire la première fois que je l'ai vu, parce que dans ma prochaine vie, je serai cosmonaute. La première fois que je vois Buzz Aldrin, j'ai dit May I touch you ? On est devenus très copains. Et c'est ce monde de cosmonautes, là, ils ont fait monter sur scène une dizaine de cosmonautes, très copains, Patrick Bovary. Et Patrick Bovary, justement, m'a dit, tu vois, Pierre, je suis un ingénieur curieux. Mais quand on est allé là-haut, c'est tellement sublime qu'on a besoin d'art. Et il a commencé à collectionner en rentrant de l'espace. Il m'a dit, j'ai besoin de ça. Alors je l'ai emmené voir l'exposition du film, et tu vois, il est un cosmonaute, toi aussi. Vous allez voir comment vous allez vous entendre. Et c'est fou de voir. Il était parfaitement dans son univers, il a parfaitement compris. Il fait un peu de seconde vie. Donc on est dans ce monde absolument prodigieux. Et il est clair que maintenant, pour comprendre un contemporain, il faut d'abord comprendre dans quelle situation nous sommes, vers quelle situation nous allons et qui est enfin. Et donc les nouveaux langages, maintenant, ce qui est passionnant, c'est que les artistes et les chercheurs utilisent les mêmes pinceaux. Les ordinateurs qui font 50 milliards d'opérations par seconde et qui créent du monde. Prodigieux. Alors j'ai parrainé le premier festival d'art numérique consacré à la réalité virtuelle il y a 6 mois à la Bastille, et donc à la réalité virtuelle. C'est un monde absolument hallucinant. Et je dis, tu vois, il faut lire les artistes, les auteurs de science-fiction, parce que je collectionne un peu les robots des années 50, ce qui est l'art primitif de notre civilisation.
Oui,
c'est ça. Hein, c'est l'art primitif. Donc, ce sont des objets des années 50.
Je vais faire, c'est le premier, ouais. Par exemple.
Et donc, Isaac Asimov, le début de la robotique, c'est Isaac Asimov. Et là, en plus, il y a une chose qui vient de se actualiser, ce qui est hallucinant. Il a donc créé les lois de la robotique. 1950. Un robot ne peut jamais porter atteinte à l'être humain, etc. Et je viens d'apprendre que dans le domaine, donc, un des pays les plus avancés du monde, c'est la Corée du Sud. Et ils sont en train de mettre dans leur constitution, les lois de la robotique d'Isaac Asimov. Je trouve ça incroyablement poétique. Ils intègrent dans leur constitution les lois de la robotique d'Isaac Asimov. Donc ça, c'est le départ. Et puis on avance, on a Philbrick, Labrador. Là, les robots sont tellement proches qu'on ne saura pas si c'est une réplicante ou pas, parce qu'ils sont tellement proches de nous. Et donc, on envoie le héros. Qu'ils veulent prendre le pouvoir des trucs. Mais il y a une répliquante qui est tellement sublime qu'il en tombe amoureux et qu'il la sauve. Donc ça veut dire que les robots sont tellement proches de nous. Étape suivante, Matrix. Ils ont pris le pouvoir. Et ils nous font vivre dans un univers qu'on croit réel. Et c'est ce qu'on veut. On est déjà ce monde de science-fiction qui se réalise est absolument passionnant. Et c'est ça l'art contemporain. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « Ah, moi, dans l'art contemporain, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir la naphtaline. » Écoutez, c'est pas ça l'art, c'est de comprendre un petit peu que c'est pas l'outil qui fait l'artiste. J'ai exactement le même crayon que Picasso, mais Picasso fait pas la même chose. Donc ces nouveaux langages entre les mains d'artistes, ce qui est en train de se passer, ça je le vis de manière passionnée, parce que après, quand les dessins anciens sont devenus inachetables, j'étais devenu commissaire-priseur et j'ai lancé le marché de la photographie. La photographie, c'était pas de l'art. 90% de la création photographique du 19e a été jetée, détruite. Et c'est le début de la fin de cette aussi. Et Jean, vous savez, le grand collectionneur, me racontait qu'il avait pris un accord avec les brocanteurs au plus pour qu'on lui montre les photographies en premier. Mais pas en premier, avant de montrer les autres, il n'y avait pas d'autres. Avant de jeter. On a détruit, mais. Alors les grandes marines de Leray qui valent maintenant 500 000 euros, c'était jeté, notamment. Et donc, pour établir ça, j'ai créé une association avec 5 ou 6 galeries qui essayaient de se battre pour la photo. On a créé une association de défense et de promotion de la photographie originale. Et on a publié un texte pour expliquer aux collectionneurs potentiels ce qu'était un tirage original, un retirage, un contrôle type. On a passé des nuits à savoir s'il fallait numéroter ou pas, se battre avec les gars, ou pas. Hein. Et puis, on a fait les premières ventes du mois de la photographie. Et après, je suis allé voir Jolie Duval à ma fière, je lui ai dit, écoute, c'est un art majeur, donne-nous un espace. On était au Grand Palais, vous avez un petit coin sous l'escalier, là. Et puis les premières galeries françaises, et puis les galeries anglaises sont venues, puis les galeries allemandes, et puis les galeries romaines. Et puis maintenant, on est l'escalier photographique. Et j'ai dit aux photographes contemporains, allez dans les galeries peintures, vous faites partie des arts plastiques. Et donc, le marché, on va aller l'estimer. Et maintenant, on est entré dans un nouveau monde qui est le monde du numérique. Et là, il faut de nouveau établir les règles. Comment est-ce qu'on s'approprie une œuvre immatérielle? Comment les artistes... Là, c'est passionnant parce que donc, on va de nouveau écrire une charte. Et comme vous savez, il va y avoir le grand projet qui se vient, parce que les fonctionnaires intelligents ont envoyé François Pinault, hein, intelligent. Et Fourcade a dit, il voulait nous laisser quelques babillons, un petit peu. Alors que... Au bout de 7 ans, il n'y avait toujours pas son de se construire, alors que le maire de Nice le donnait en 3 semaines. Donc c'était... Et là, quand même, donc, là, il y a un vrai projet d'agrandissement. Et il doit y avoir une vallée d'agriculture. Et donc, en tant que palais Tokyo, on a été choisi comme expert pour le développement de cette partie des arts plastiques. Et nous ont dit, vous êtes la seule réussite internationale depuis 40 ans pour donc, comment travailler avec les privés, que là, il va falloir aussi travailler avec les on a avancé. Et la première chose que j'ai dit, je veux un pôle numérique. Et là, c'est parti. On a commencé à... Et dans le discours de Saint-Paul à Montière, il a dit, en toutes les formes d'art, il a dit qu'il y avait du numérique. Donc ça y est, c'est parti. Donc là, on est maintenant devant ce nouveau monde, et il va falloir qu'on le donne jusqu'à la mise à l'expression.
Si tu permets, alors pour le coup, petite fenêtre pour parler de ce que nous faisons, et d'ailleurs, je serais très heureuse qu'il y ait des passerelles. Je fais appel à ta casquette président du Palais Tokyo, mais nous ouvrons avec Anne-Véronique Jensen, nous lançons le 18 juin un laboratoire d'espace cerveau qui va plutôt tendre à travailler sur les neurosciences et justement le mot espace vient passer des cerveaux parce que bon, justement nous constituons et nous originons du fait artistique et nous allons travailler avec les scientifiques mais aussi dans, au-delà, je vais dire pas au-delà du fait numérique mais avec et parallèlement.
Bien sûr.
C'est-à-dire, ça va être à la fois le fait numérique, l'astrophysique, les neurosciences surtout. Et ça se lance le 18 juin. Et justement, c'est pour essayer d'appréhender ensemble ce qu'on n'arrive plus à dire, à formuler, parce qu'on est face à cette immatérialité, que ce n'est pas non plus que le fait robotique et cybernétique non plus qui est en jeu. Il y a cette notion de nous qui nous manque. C'est pas nous qualifier l'espace. Ah, je crois que c'est éteindre. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'on est au-delà de la représentation.
Absolument.
On quitte la représentation, probablement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par
rapport? Exactement. Vous savez, on est entré dans ce nouveau monde extraordinaire où il n'y a plus aucune différence entre l'art et la science. Parce que les univers dans lesquels nous sommes entrés, Et moi, je travaille aussi chez une de mes familles qui dirige un laboratoire de recherche sur le cerveau, la Sylvie Pasteur. Le cerveau est une machine absolument prodigieuse. Vous avez là vos crânes, vous avez 100 milliards de neurones et 10 puissance 15 milliards de synapses. Ça veut dire qu'il y a plus de synapses dans vos cerveaux que d'étoiles dans l'univers. C'est une machine là, prodigieuse. Mais le cerveau ne sait faire qu'une seule chose. C'est pour ça que l'éducation est tellement importante. Il ne sait faire qu'une seule chose, apprendre. Apprendre, apprendre à sentir, apprendre à aimer, apprendre à aimer. Et c'est pour ça qu'on a besoin maintenant, dans ce nouvelle civilisation prodigieuse, d'avoir vraiment ce qu'il fallait faire avant aussi, mais c'était moins urgent, une coupe transversale de l'intelligence. On ne peut plus séparer. C'est pour ça que je fais, c'est exactement ça, c'est exactement la démarche, parce que l'astrophysique, ce qu'on sait de l'univers, maintenant, est absolument hallucinant. Qu'on est allé découvrir. J'ai découvert une chose incroyable, c'est que 90% de la matière de l'univers, la matière noire, est inconnue. Hallucinant. Et alors, André Braille, qui était un des grands astrophysiciens, il nous faisait une conférence, un petit monde chercheur, il disait, je suis né, c'est absolument hallucinant, sur scène. Puis à un moment, il s'arrête. Et il dit, la science, c'est beau. Et quand ça n'est pas beau, c'est faux. Donc, c'est Ce mélange arrêt de la science, maintenant, c'est absolument indispensable. Ils utilisent les mêmes outils. Les artistes qui travaillent dans le monde numérique, ils ont des ordinateurs qui font 50 milliards d'opérations chaque seconde. Les chercheurs aussi.
Et là, après, il y a quand même des enjeux qui sont de l'ordre de qu'est-ce qui est une démarche artistique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et c'est ça qu'on va essayer de gérer aussi. Parce que l'ingénieur qui fait joujou pour. Voilà, on est bien d'accord.
Non, mais là, tu sais, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a un nouveau langage, il imite le précédent. Donc, alors il y a déjà toute la photo du 19e, c'est la peinture. Coucher de soleil, nature morte, etc. Et donc, pour ceux qui utilisent l'outil, mais là, pour l'instant, il faut faire la différence entre les acrobates, hein, qui jouent avec ces hommes. Mais en fait, je parlais des critères objectifs de jeu. Objectif, il y a objectivement des contraintes, objectivement des deux, c'est clair. Ça, c'est difficile à faire comprendre, mais c'est clair. Et je discutais avec Philippe Segalo, tu sais, il était à New York, on parlait de ça, puis il me dit, c'est drôle, parce que j'ai un de mes amis qui vient de me donner une grille de lecture merveilleuse. Mais dans tous les domaines, des arts, des sciences, de la vie, des affaires, il y a les trois I. Inventor, imitator, idiot. C'est dans tous les domaines. Donc, ça, les inventeurs font avancer le monde. Et les imitateurs, évidemment. Donc là, dans ce nouveau monde-là, il va falloir évidemment faire la différence entre ceux qui ont quelque chose à dire et les acrobates.
Oui, parce que tu sais, il y a aussi cette tendance qui recoupe un peu tout, on appelle bibliothécarte, et qui, bon, on ne sait pas trop, et c'est un peu fourre-tout, justement. Et c'est peut-être pas un mouvement supplémentaire. Des démarches fortes pour s'appuyer, mais c'est peut-être des artistes du 20e qui vont réussir à se comparer, parce qu'on sent bien le passage.
Absolument.
C'est curieux, les chiffres sont symboliques, mais quand même, depuis l'an 2000,
il s'est passé quelque chose. Absolument. Et ça va être à nous à déterminer, puisqu'on aura toujours fait, hein. Nous sommes les récepteurs des codeurs, c'est à nous maintenant à bien faire le tri entre les acrobates qui disent regarder comme je suis fort, et qui n'ont rien à dire. Et puis ceux qui font avancer le monde. Et maintenant, tous les artistes sont en train de beaucoup se rapprocher des chercheurs. Ils ont vraiment envie d'avancer dans ce nouveau monde et de se nourrir. Parce que vous voyez bien que les mouvements artistiques qui mettent 40 ans à naître, à se développer et à trouver leur histoire, c'est quasiment 40 ans, quart d'heure, on a plus que les choses avant. Donc s'ils ne vont pas se nourrir, s'ils continuent, s'ils sont seulement des acrobates qui utilisent des machines et qui font des acrobaties, ça marche. Et ça va être 90%, un peu plus.
C'est bien, moi je suis ravie parce que nos dernières discussions étaient plutôt autour de Beuys ou d'autres artistes. mais qui sont des grands maîtres et effectivement qui ont réussi à nous apporter vers ça. Mais pour autant, justement, est-ce que tu peux nous parler de revenir vers ta sanguine? Nous raconter un petit peu la suite, néanmoins. Par exemple, lorsque nous sommes croisés, moi je faisais mes pas chez Daniel Tant. Macron et puis tu étais très intéressé, enfin, très proche de l'œuvre de Jean-Michel Pascal, mais il y a d'autres avant. Ouais. Comment tout ça s'est déroulé?
Bah, c'est vrai, j'ai avancé dans le temps. J'ai commencé, en fait, il faut être formé. J'ai eu la chance de pouvoir commencer par les essais anciens, ça valait rien. Donc, et pas seulement d'aller les voir au cabinet des arts pour les acheter. J'ai acheté des essais pour rien. J'achète un jour. Et puis j'avais des moments merveilleux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation. Je vais chez un grand marchand et j'achète un petit dessin d'Italie chez elle, un menu. En gros, le col de Bologne, quand même. Parce que c'est un très grand marchand, enfin, il n'avait pas identifié. Et donc ça valait l'équivalent de 500 francs, 150 euros. Et puis je rentre, et puis, bon. Et puis il sort un livre qui est très peu de documentation, c'est un ouvrage sur les dessins de la reine d'Angleterre. Le plus chouette de collection de dessins du monde. Et dans ce livre, il y avait donc. C'était Bologne, c'était autour des garages, tu vois. Et donc, garage, il y a Hannibal. Le patron, Agostino, le Dottico. Et puis, donc, il y avait des études de pied qui correspondaient un peu, je me suis dit, bon, raisonnablement, la tribune à Agostino. Et puis là, il y en a vu les collectionneurs de l'Union. Un matin, exposition lourde, collection dessin, du musée de Stockholm. Avant de prendre la preuve, je suis prends d'abord le catalogue pour commencer. Et c'était le petit déjeuner, c'était le petit déjeuner à l'époque.
Je
ne
sais pas te demander.
Donc, je voulais notre petit déjeuner. Et là, tout d'un coup, je m'aperçois que mon dessin, la partie gauche du dessin fait dans le garage. Et je me dis, c'est le dessin avait été coupé. J'avais la partie gauche et la partie. C'est des moments de bonheur. Je ne vous dis pas. Et donc, ça a permis comme ça que. Il fallait chercher, il fallait identifier, et puis après les catalogues sont sortis, les livres sont sortis, etc. On pouvait tout voir. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir, à l'époque c'était vraiment possible, de donner une carte auquel vous avez ça, et on pouvait tout voir. C'est Michel-Ange. Durer. Première fois que j'ai vu les aquarelles de Durer, je connaissais pas. Et donc ça c'est une vraie formation. Et puis après, bon. Les grands musées américains ont commencé à constituer leur cabinet de dessin, et puis c'est devenu inachetable. Donc, je ne peux plus acheter. Moi, j'ai toujours été. En fait, mon collectionneur achète avant. J'ai eu l'argent pour acheter avant, donc, pour acheter après. Donc, et puis après, comme le dessin était accessible, je me suis dit la photographie, évidemment, j'ai lancé la photographie. Et puis, quand c'est devenu accessible, j'ai continué à avancer dans la photo contemporaine. Puis, j'ai donc avancé longtemps. Et puis là, un jour, je vais à New York, une fois, j'ai des dessins de Jean-Michel Basquiat, qui est un gosse, qui est formé pour le dessin en même temps. Et donc, je me suis beaucoup battu dans Basquiat, au départ, c'est toujours pareil, gna gna gna, c'est la mode, c'est pas parce que c'est comme un voix, Et là, quand j'avais proposé à Bourg un tableau de 3,50 m de long pour l'équivalent de 1 000 euros. Quand ça valait 10 millions, tout d'un coup c'était. Le fait, pas vraiment qu'il achète, on s'en fout. Et quand ça valait 10 millions, c'était devenu un artiste intéressant. Hein. Comme Andy Warhol, quoi. C'est du vivant Warhol. C'est exactement. Tu sais, Boy, c'est Warhol, c'est pareil. Et c'était tellement charismatique. Ouais, qu'il faisait de l'ombre à l'Europe. Ouais. J'ai acheté une Marilyn de Warhol, une mine de Warhol, c'est une chambre de la guerre, une mine de Warhol, qui va dans sa vie. Marie de Mono, la Joconde. Et Boyce aussi, c'était un chaton de plus aussi, tu vois, il était pour spirituel. Et d'ailleurs, Andy Warhol aussi, parce que ces deux artistes étaient extraordinairement spirituels. Andy Warhol, qui avait la réputation d'être un viveur, la factorerie. En fait, il était tous les matins, il allait tous les matins à Metz. Et là, j'ai vécu une chose extraordinaire. Vous savez, mon maître à penser, c'était Pierre Estelle. Pierre qui a créé le mouvement le plus important de la fin du XXe siècle, qui est le mouvement réaliste. Et d'ailleurs, Andy Warhol disait de Pierre Estany, c'est une légende, évidemment. Et il a évidemment été flingué en France parce qu'il était tellement indépendant, tellement. Et donc, dernière exposition de parole à Milan, c'était le vernissage de l'exposition sur la scène de l'art passé. Et donc j'étais là, Warhol était là, on déjeunait avec Castagné. Et là, Andy Warhol pose une question qui est vraiment angoissée. Andy Warhol, le viveur, son viveur, en fait. Thierry, est-ce que tu penses que les Italiens vont comprendre à quel point j'aime le Christ? Quand vous entendez ça, la vie de Warhol, vous l'entendez dire à quel point il était incroyablement spirituel. Et Bugs aussi, on disait que Bugs était un chaman. Donc, ce sont des gens qui nous ont amené avec cette nouvelle civilisation comme un voyeur, mais c'est mon idole. J'ai eu une chance extraordinaire, je vous raconte, il y aura deux mots, parce que ça, c'est des choses qui arrivent aux collectionneurs névrosés. Donc j'avais acheté la grande photo du second vide d'Yves Klein, vous savez, en 1960. Yves Klein, je suis le peintre de l'espace, donc je dois aller moi-même dans l'espace, pas avec une fusée. Là. Et comme c'était un très très grand judoka, il était 5e dame du Japon, à Fontenay-aux-Roses, il avait son école de judo, et il a dit je vais le faire la photo du second. Alors, il dit à son copain, judoka, dimanche matin, il va falloir que je vienne parce que je vais sauter là-haut. Il va falloir que je vienne rattraper Jean Varay, c'est mon copain, mais c'est l'artiste. Donc, et voilà, un dimanche matin, Castagné était là, et il fait cette photo du second. C'est-à-dire qu'il saute, c'est Harry Shum, un très grand photographe américain, il était là. Donc, il saute, là, en faisant ce qu'on appelle le cata des oiseaux, puis il retombe sur une bâche, et Harry Shum fait le. On fait appeler photomontage, et cette photographie de ce nom vide, il l'a publiée dans le journal d'un seul jour en 1960, et au-dessus il y a marqué « Un homme dans l'espace » en 1960. Et 3 ans avant, il avait fait « La Terre bleue, la Terre bleue ». Un an après, Gagarin tourne autour de la Terre, il y a un homme dans l'espace. Et quand il est là-haut, il dit « Je vois la Terre, elle est bleue, un peu profonde. » Donc Yves Klein fait « Un homme dans l'espace, la Terre bleue », un an après, il y a un homme dans l'espace, il dit « La Terre bleue ». C'est un voyant, quoi.